This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Ça, ouvre-moi, ou le chasseur me tuera. Lapin, lapin, entre gars, me serrer la main, me serrer la main, serrer la main.
Lui, c'est mon petit garçon. Il vous a probablement fait craquer avec sa petite chanson. Moi, je suis Shane Love, une maman solo qui a décidé de partir à la rencontre des femmes du monde pour parler sans filtre de la maternité. Alors bienvenue à vous dans Le Tourbillon, le podcast qui parle de la maternité, la vraie, loin des filtres Instagram. Vous avez certainement déjà vu les vidéos dans lesquelles des nouveau-nés prennent leur premier bain jusqu'à planer de bien-être, un véritable moment suspendu. Celle qui est à l'origine de cette méthode d'accueil du bébé, c'est Sonia Krief. Sonia est maman de 4 enfants, grand-mère de 8 petits-enfants. Elle a travaillé une quarantaine d'années en tant qu'auxiliaire de puériculture, un métier qui reste selon elle trop peu reconnu. 40 ans pendant lesquels Sonia a fait les premiers soins et a baigné nos bébés en maternité. C'est au bout de 20 ans de carrière, après avoir assisté à un accouchement physiologique d'une douceur incroyable, que Sonia se pose la question qui va bouleverser sa vie. Pourquoi les bébés pleurent-ils quand on leur donne leur premier bain, alors que c'est le milieu dans lequel ils devraient être les plus rassurés? Alors, Sonia expérimente, se documente, analyse et développe petit à petit sa propre méthode pour accueillir les nourrissons. C'est la naissance du bain de Sonia. Dans cet épisode, Sonia nous parle avec passion de son métier, elle nous raconte sa propre maternité, nous explique que ce monde va trop vite pour les parents et pour les bébés, et nous partage son bonheur de pouvoir vivre des moments aussi forts lors des premiers bains. Bonne écoute. Bonjour Sonia.
Bonjour.
Merci beaucoup de nous raconter ton histoire dans le tourbillon. Alors, tu es maman de 4 enfants.
C'est ça.
Grand-mère de 7 petits-enfants.
8. Oui.
tu étais auxiliaire de puériculture pendant une quarantaine d'années.
C'est ça.
Et donc, tu as fondé l'école du bien-être.
Oui.
Il y a un an.
Voilà, avec Clara et Charlotte.
D'accord. Alors, on va revenir un petit peu en arrière sur ton histoire à toi, ton histoire de maman, comment t'en es arrivée à tout ça. Donc, le sujet déjà de la maternité, est-ce que toi, c'est quelque chose à laquelle t'as pensé assez jeune? Comment c'est... Voilà, quel regard t'avais sur la maternité étant plus jeune?
Lorsque j'ai fait mon choix professionnel... Je l'ai fait parce que, en réalité, je n'ai jamais aimé l'école. Et il fallait que je trouve un moyen d'en sortir assez rapidement. Donc, il me fallait un diplôme qu'on arrive à obtenir très rapidement aussi. Donc, auxiliaire de puériculture, c'est un diplôme à l'époque qu'on obtenait en un an. Ça m'allait bien. Le sujet des bébés me plaisait aussi, mais... J'ai envie de dire que je me suis dirigée vers ce sujet sans vraiment savoir pourquoi. Et c'est seulement beaucoup d'années après que j'ai eu l'explication de ce chemin vers ce sujet-là.
D'accord.
Donc, au début, c'est un hasard, mais il n'y a pas de hasard.
Ouais.
La vie nous guide et notre histoire nous guide. Mmh. Donc voilà, je suis arrivée à cette histoire de maternité qui m'a passionnée, mais ça a été un vrai coup de foudre professionnel. J'ai vraiment adoré, dès le début, être là dans les premiers moments, les premiers instants de vie. Et j'ai toujours vécu ça comme un vrai privilège, une vraie chance d'être là. Pas au premier regard, parce qu'il y a d'abord le médecin, puis les parents, mais je n'étais pas très loin derrière. Et là, mais c'est un cadeau de la vie de me permettre à moi d'être là pour accueillir ce nouveau-né d'une fragilité et en même temps d'une force, d'une puissance et d'une pureté incroyable.
Tu te souviens du premier...
Oui.
Oui.
Oui, je me souviens de son prénom. Hein, c'est ce que je dis à mes petites élèves, c'est qu'on se souvient du premier dans notre expérience. Je me souviens que c'était une petite fille qui s'appelait Zoé.
Ouais.
Une magnifique petite fille. C'était ma première naissance en salle de naissance et j'oublierai jamais.
Qu'est-ce que t'as ressenti?
C'est très touchant. On est bouleversé, touché et ce petit être, comme je dis, si fragile. Après, par la suite, je me rends compte qu'ils ont une force incroyable, ces bébés. Mais être là, c'est un truc de fou. C'est la magie de la vie, la naissance.
Ouais.
Donc voilà, j'ai été très, très touchée et très, très émue par la naissance de Zoé, qui doit avoir une quarantaine d'années aujourd'hui. Ça me fait tout drôle de le penser. Ben oui, voilà, donc j'ai été... on m'a vite mis dans le bain professionnel. Mmh. Très vite, on m'a demandé de faire des choses qui n'étaient pas tellement de ma fiche de poste.
Par manque de personnel?
Ben non, même pas, parce que c'est une petite clinique privée, que chacun fait son petit boulot, même dépasse sa fiche de poste. Et j'ai une curiosité, une soif d'apprendre, mais dès le début, vraiment, quand on m'a fait faire des choses alors que je sortais toujours là, tout juste la veille de l'école, je me suis dit, mais c'est pas possible, j'ai pas appris à faire ça.
Oui.
Et ben, on m'a dit, tu vas apprendre. Mais j'ai pas été du genre à me dire, ah ben non, hein, moi j'ai pas le droit de faire, je fais pas. Non, c'est en me mettant un petit peu, en me bousculant un petit peu, que j'ai appris tellement de choses sur mon travail. Et tellement de choses sur les bébés, sur la femme enceinte, sur la femme qui accouche, sur les difficultés de grossesse, d'accouchement, de naissance. Enfin voilà, je pense que c'est comme tous les métiers. Si on n'a pas une curiosité de ce qu'on fait, c'est très limitant et c'est difficile de passer toute une vie professionnelle en se limitant à notre petit cadre et notre petite fiche de poste. En tous les cas, moi, j'avais très envie d'apprendre. J'ai beaucoup appris avec tous les obstétriciens, j'ai beaucoup appris avec les pédiatres, et bien évidemment, j'ai beaucoup appris avec les parents, et encore plus, évidemment, avec ma propre maternité.
Et oui. Et est-ce que toi, avant d'entrer dans tout ce monde, tu y connaissais quelque chose? Est-ce que toi, t'en avais parlé avec tes parents? Est-ce que les infos circulaient?
Non. Les seules choses que j'ai apprises, c'est que on est une famille de 6 enfants, donc on baigne un peu dans l'enfance. Je suis la troisième, ça veut dire qu'il y en a 3 derrière moi. Mais sinon, le sujet de l'enfance, il y a, j'ai 59 ans, hein. Voilà, n'était pas aussi développé qu'aujourd'hui. Hein. On avait un enfant, on le faisait grandir, il y avait l'éducation, les bases, les valeurs, et puis c'était bien comme ça. Mais non, c'est pas vraiment un sujet dont on discutait. Non, c'est vraiment un choix professionnel que j'ai fait de moi-même.
Ouais.
Et voilà, avec cette école que mon papa m'a payé à l'époque, c'était une école privée qui coûtait quand même un certain prix il y a 40 ans.
À Paris?
Oui, à Paris, elle existe toujours. Et c'est vrai que mon papa m'avait dit à l'époque, moi je veux bien, je te paye l'école, mais il faut que tu réussisses. Donc je n'avais pas trop le choix, je ne pouvais pas rater ce diplôme. Et voilà, et merci mon papa d'avoir cru en moi et de m'avoir payé cette école et d'en être là aujourd'hui.
Ouais. Et alors, c'est quoi le métier d'auxiliaire puériculture?
Au début, j'ai juste envie de vous dire que c'est un métier qui est très limitant. J'ai plutôt l'habitude de mettre le plus en avant, mais là, je vais mettre le moins en avant.
Okay.
C'est un métier qui n'est pas reconnu. C'est un métier de l'ombre. C'est un métier qui n'est pas valorisé. On est les sous quelque chose, on est les auxiliaires de puériculture, on est un petit peu la petite main de la sage-femme. C'est pas très valorisant, hein.
Qui elle-même est la petite main du gynéco.
Tout à fait. Ouais. Tout à fait. Mais qui est quand même, elle est plus visible que nous. Mmh. C'est-à-dire qu'un médecin qui va passer, je ne dis pas tous, hein, un médecin qui va passer faire son tour dans les étages, il va s'arrêter, dire bonjour à la sage-femme, à l'auxiliaire, il va passer devant et au bout de 10 ans, il ne sait toujours pas son prénom. Mmh. Et ça, j'avoue que c'est très difficile pour l'auxiliaire à vivre. Hein. C'est pour ça que même si depuis peu, je ne suis plus auxiliaire de puériculture, je crois que j'ai toujours envie qu'on me présente comme une auxiliaire de puériculture parce que je veux défendre haut et fort ce métier qui a une importance essentielle autour des parents, de la parentalité, mais qui est transparent. Mmh. Qui est transparent. On est hyper importante dans tout cet accompagnement, dans toute cette rondeur qu'on va y mettre en règle générale. Dans toute cette écoute, dans toute cette bienveillance, et c'est pour ça qu'il faut faire de notre métier quelque chose de grand et qu'il ne faut pas forcément se limiter à cette fiche de poste qui quand on dit c'est accompagner les parents, c'est très basique, je trouve que c'est pas très valorisant comme on nous le présente. C'est faire les premiers soins des bébés quand on est ensuite de couche, ça veut dire le change, le bain, pas tellement autre chose. On n'est pas suffisamment formé, par exemple, à l'allaitement, on n'est pas suffisamment formé à la douleur, on n'est pas du tout formé au sujet de l'émotion, ce qui est, moi, mon cheval de bataille depuis un certain temps, mais encore plus maintenant, c'est mettre l'émotion dans notre accompagnement et dans nos soins. Mmh. Les protocoles, ça va 5 minutes. Mettons de l'émotion à une période où le lien d'attachement est un peu plus difficile, où on a peur que l'enfant s'attache trop, où on a peur de trop de dépendance. On a un vrai rôle, je trouve, à ce niveau-là. Mettons de l'émotion dans la formation de l'auxiliaire de puériculture. Et en salle de naissance, eh ben c'est pareil, on va faire les premiers soins au nouveau-né. Mmh. Après, il y a la même chose en crèche. La crèche, c'est à partir de 10 semaines jusqu'à 3 ans. C'est pour moi un autre métier. C'est le même diplôme, mais pour moi, il faudrait presque en faire deux parce que c'est deux boulots, mais complètement différents, mais vraiment différents. Pour moi, une année sur, par exemple, la maternité, la néonate, ça devrait être ça. Et peut-être une année pour la motricité, l'éveil, enfin un tas de choses en crèche. Mais tout dans la même année, alors que le sujet est tellement vaste, je trouve que c'est une erreur. Donc, moi, j'ai juste envie d'encourager toutes ces personnes, hein, il y a quelques garçons, toutes ces personnes à éveiller leur curiosité, qu'ils aillent chercher des sujets qui les touchent vraiment, qu'ils ont envie d'approfondir. Moi, ça va être le bain, mais on en discutera tout à l'heure. En réalité, mon sujet n'est pas le bain. Il y en a d'autres, ça va être le portage. Il y en a d'autres qui vont creuser dans l'allaitement. Mais qu'on s'épanouisse dans un thème et qu'on l'approfondisse un maximum et qu'on devienne peut-être une référence de ce sujet. Mais qu'on s'ouvre à autre chose et qu'on sorte de ce rôle très limitant de l'auxiliaire. Vraiment, moi, je le trouve très limitant et j'ai beaucoup de peine pour toutes ces personnes qui viennent me raconter leur travail en maternité, à l'hôpital. Elles ne sont pas reconnues. Elles ne sont pas reconnues et quand on voit toute l'aide qu'on apporte aux parents, ce n'est pas juste. Mmh. Voilà, c'est pour ça que je défends haut et fort ce métier-là et que je pense, je dirais toujours que je suis auxiliaire de puériculture, même si j'ai la tête d'une école.
Et alors, toi, en perso, à quel moment est arrivé le sujet de la maternité au sein de ton couple ?
Moi, je me suis mariée en 81 et ma grande fille est arrivée en 82. On a voulu très rapidement avoir un bébé. Vraiment, quelques mois après notre mariage, j'étais enceinte. Il faut savoir que toute professionnelle qu'on est, que ce soit sage-femme, puéricultrice, auxiliaire, le jour où on devient maman, On n'est plus tout ça.
C'est ce que j'allais te demander.
On est juste maman avec les mêmes fragilités, les mêmes doutes, les mêmes souffrances, les mêmes larmes que toutes les mamans qui versent une larme pendant le baby blues, un bébé qui pleure parce qu'il a des coliques, et ben moi, ma fille pleurait, ben, j'ai pleuré avec elle. On oublie. On n'est plus professionnel, on est juste maman. Hein.
Est-ce que ça a un impact sur ton métier derrière ? Justement, tu deviens maman, est-ce que tu comprends encore plus ?
Bien évidemment. Oui. Bien évidemment, j'ai envie de dire que tout ce que j'ai vécu, quand je vois qu'une maman vit à peu près la même chose, je sais de quoi elle parle. Mmh. Juste pour la petite histoire, quand une maman galère avec son allaitement, qu'elle a mal, qu'elle a des crevasses, qu'elle saigne, qu'elle n'y arrive pas, ben je peux en parler parce que moi, je ressemble à ça. Mmh. Je ressemble à ça. Donc, c'est vrai que la douleur, quand on dit « ça fait mal », on sait que ça fait mal, mais quand on l'a vécu, on sait encore plus que c'est comme l'accoucher sans péridurale. On sait que ça fait mal, mais tant qu'on n'a pas accouché sans péridurale, on ne sait pas à quel point ça fait mal. Donc une maman qui couche, qui accouche sans péridurale et qui dit « mais qu'est-ce que ça fait mal, j'ai cru que j'allais mourir ben, ». Je sais, en effet, il n'y a rien, on ne peut pas comparer la douleur de la contraction. Donc voilà, j'ai envie de dire forcément tout ce que j'ai connu, même si le seuil de tolérance est très variable d'une personne à une autre. Je sais ce que c'est, je sais ce que c'est, et de toute façon, même si je ne sais pas, je m'adapte très facilement et je pense que j'écoute tellement que j'arrive de toute façon à imaginer, il suffit d'écouter la femme, comment est-ce qu'elle nous raconte ses douleurs. Mmh. On imagine à quel point c'est douloureux quand elle nous la raconte, que ce soit psychique ou physique. Hein. Donc bien évidemment, je me sers de ma maternité pour accompagner les nouvelles mamans et comprendre leurs difficultés, ça c'est certain.
Ouais.
C'est certain. Et puis voilà, la deuxième est arrivée 3 ans après, le troisième est arrivé 3 ans après, et le petit dernier, mon petit bébé cadeau, c'est mon petit bébé surprise, est arrivé 7 ans après.
D'accord.
J'hésitais, je me suis dit, est-ce qu'on en fait un quatrième ? Voilà, je savais pas trop. Et puis, Dame Nature a dit, arrête d'hésiter. Moi, je vais prendre la décision pour toi. Et puis, il est arrivé et je me dis, mais comment j'aurais pu faire sans ce petit quatrième, quoi. Après, on sait quand c'est fini. Hein.
Est-ce que tu as des anecdotes sur tes grossesses ? Est-ce que tu les as bien vécues ?
Je les ai bien vécues. Ça, ça, c'est le genre de choses quand une femme dit « je n'ai pas du tout aimé être enceinte ». Je l'entends, mais moi, j'ai adoré être enceinte. L'accouchement, c'est pareil. J'ai adoré accoucher.
Ah oui ? C'était sans péridurale ?
Ouais. Deux sans péri et deux avec péri. J'ai adoré accoucher de toute façon.
Ouais. Et c'était avec des collègues à toi à chaque fois
J'ai accouché 4 fois dans la même clinique avec le même obstétricien et au fur et à mesure, je retrouvais quand même quelques personnes avec qui j'ai travaillé. Donc, je dirais que j'ai adoré tout ça et j'ai vraiment, vraiment profité de la dernière grossesse. C'est-à-dire qu'on gagne en maturité, on gagne en expérience. On a plus confiance en soi, donc c'est vrai que la dernière grossesse, je me suis régalée, vraiment.
Et pourquoi ce choix alors de péridurale pour les deux derniers ?
J'ai essayé pour le premier, parce que ça fait très très mal. Hein. Je vous assure.
T'avais une préparation ?
Ça fait très très mal. Faut dire qu'il y a 40 ans, c'est le début de la péridurale. Mmh. On disait encore qu'il y avait des risques. Moi, je me souviens, à l'époque, j'entendais ça. Il y a des risques d'être paralysée. Il y a des risques de... Il y a 40 ans, c'était tout juste le début. Hein. Donc, peut-être que j'ai eu la trouille au tout début de prendre la péridurale. Je suis très, très contente de l'avoir vécu 2 fois. Mmh. Maintenant, c'est pas une obligation.
Oui.
C'est pas une obligation. Mais je respecte complètement les femmes qui ont envie d'accoucher sans péridurale. Je pense qu'il faut une vraie préparation mentale. Il faut un vrai accompagnement. Il faut coacher son chéri ou sa chérie parce qu'on a vraiment besoin de soutien. Voilà. Et chapeau, parce que je sais à quel point ça fait mal et que c'est pas simple. Mais une fois que toutes ces femmes y arrivent, elles sont fières d'elles, elles récupèrent plus, Donc, chapeau. En tous les cas, moi, je les accompagne là où elles veulent aller, c'est certain. Ouais. Hein. Celle qui veut accoucher avec sans péridurale, je ne vais pas lui dire « Mais t'es complètement folle, il y a une péridurale, mais t'es folle de vouloir souffrir alors qu'on... Bah, » Chacun son choix.
Et est-ce que tu t'es sentie tout de suite à l'aise dans ton rôle de maman?
Bah, la première, non, hein. Non. C'est ce que je dis toujours. Hein. Avec nos premiers, on fait notre école. Hein. Ils font de nous des parents. On est hésitant, on découvre. C'est l'inconnu total. On fait des erreurs, même si on en fait toujours avec tous nos enfants. Mais ils font de nous des parents avec notre fragilité, nos doutes, nos peurs, nos angoisses. Le premier, d'ailleurs, souvent je lui dis... tu m'excuses, t'étais la première. J'ai appris avec toi. Hein. Ouais. J'ai appris avec toi. Donc non, j'étais pas du tout tranquille. À part les trucs techniques, j'avais pas peur de changer une couche ou de faire un bain. Mais le reste, face aux pleurs des bébés, c'est terrible. Ouais. Plus j'étais jeune maman, j'ai été jeune maman à 21 ans. Ouais. Voilà. Mais ça m'a pas. J'ai pas des choses qui m'ont vraiment marquée, des grosses peurs. Ils m'ont pourtant fait des trucs assez incroyables, mais ça m'a pas marquée. Alors est-ce que j'étais trop jeune et que j'étais insouciante? Je sais pas. Peut-être. Il y a des plus et des moins à faire des maternités tôt et des plus et des moins à avoir une maternité un peu tardive. Hein. Ben, c'est peut-être le côté insouciant où on fait les choses sans se poser de questions et sans se prendre la tête. Ouais. Ça c'est quand on est jeune. Quand on est un peu plus tardive, eh ben on est beaucoup dans le cérébral, on est dans le calcul, il faut que ce soit carré, organisé, mode d'emploi. Donc c'est l'insouciance contre le... mais c'est vrai, on voit vraiment cette différence dès qu'on a à nos côtés une jeune maman par l'âge ou une maman autour de 38, 40, 42. Ce n'est pas du tout le même fonctionnement, ouais. Pas du tout, du tout, hein. C'est ce qui fait la richesse de notre travail aussi, hein. Mmh. C'est de rencontrer cette diversité-là, c'est passionnant. Mmh. C'est passionnant, mais c'est vrai qu'il y a l'insouciance de la jeunesse. Donc, je me souviens pas de grosses peurs, de grosses frayeurs. Voilà, je me souviens d'avoir pleuré comme toutes les mamans qui pleurent et à me poser 10 000 questions. Mmh. Voilà, et c'est vrai que forcément qu'au quatrième, hein, ça, les mamans vous le disent, hein, déjà au bout d'un deuxième, on a lâché prise sur plein de choses, on a pris confiance, et puis plus on en a, et en principe, plus on est confortable dans notre maternité, même si chaque enfant est différent, avec un tempérament différent. Ouais. Mais on s'adapte beaucoup plus, et c'est surtout, on lâche prise. On lâche prise, vraiment.
Et est-ce que tu as allaité pour tes enfants?
Ah, j'ai essayé. Ouais. C'est ce que je disais. Je connais les difficultés de l'allaitement. En tant que professionnelle, j'ai essayé de me débrouiller toute seule. Erreur. Il faut oublier qu'on est professionnel quand on est maman et il faut demander de l'aide. Donc, je n'ai pas demandé d'aide. Je me suis débrouillée comme j'ai pu. Et je me suis mal débrouillée. Donc, j'ai tenu tout ce que j'ai pu, mais avec beaucoup de souffrance, beaucoup. Hein. Les crevasses qui saignent, le tire-lait, tout ça, je connais. Jusqu'au jour où j'ai dit, stop, c'est plus possible. J'ai vraiment trop mal. La douleur, elle reste inscrite hein, dans la mémoire. Hein. C'est-à-dire que pour la deuxième, hein, je me suis dit, oh là, je vais essayer, j'ai envie d'allaiter. Mais dès que j'ai mis mon bébé au sein, la douleur a repointé. Mais juste à la première succion, j'ai dit « Ah non, oui. Je peux pas. Je peux pas. » Le troisième, qui était un peu plus costaud, je me suis dit bah, « Tant pis, lui, c'est pas grave, je vais pas le tenter. » J'avais vraiment peur. Et puis le petit dernier, je dirais, c'est la seule petite frustration que j'ai, c'est l'allaitement. Le petit dernier, je me suis dit « Allez, c'est le dernier, je vais quand même l'allaiter. » Je l'ai mis au sein. Ah, la douleur, le souvenir. Ah, oui, oui. J'ai dit « Je peux pas. » Je pouvais pas. J'ai trop souffert de la première et je ne voulais plus revivre ces mêmes douleurs. Donc, la douleur, elle est inscrite. Hein. Mmh. Elle est inscrite et c'est moi, j'ai pas pu. Donc, je n'ai... La première, je l'ai un peu allaitée, mais quand je dis un peu, ça se calcule en 2 semaines maximum. Hein. Mmh. J'ai tenu 2 semaines et après, j'ai pas pu. Mais voilà, c'est peut-être la petite chose qui m'aura manqué, petite chose que j'ai pas vécue. Mmh. Voilà. Mais il n'empêche que si j'ai une maman qui veut allaiter, je vais me démener, mais alors complètement, pour qu'elle réussisse son allaitement. C'est pas parce que je l'ai raté. Voilà. C'est-à-dire que notre histoire est notre histoire et les autres n'ont pas à payer de notre histoire. Mais je vais me démener pour, justement, pour pas qu'elle ait la frustration peut-être que moi j'ai eue de pas y arriver. Et je vais tout faire pour qu'elle y arrive.
Mais justement, tu disais que toi, t'avais pas demandé d'accompagnement ou d'aide au moment où tu as essayé d'allaiter. Est-ce qu'il y avait vraiment un accompagnement à cette période? On n'a pas beaucoup aujourd'hui non plus.
Ben, je pense qu'il y a 40 ans, on pensait encore plus qu'allaiter, c'était naturel.
Ouais.
Voilà. Voilà, si on remonte à la... il y a des dizaines d'années, on mettait son enfant, on allaitait et ça paraissait simple. J'ai envie de dire que les difficultés apparaissent petit à petit et on se dit que pour finir, l'allaitement, c'est pas si simple que ça, que parfois ça se passe bien. Je pense qu'il y a plus de situations où on a besoin d'un accompagnement que de pas en avoir. Les allaitements où c'est tout rose et que tout va bien et qu'on a pas mal et qu'il mange, il dort, j'en entends pas souvent des histoires comme ça. Mais des histoires de « on m'a pas suffisamment aidée, il m'a fait mal, j'ai eu des crevages, j'ai eu des engorgements, j'ai une mastite », ça, je l'entends bien plus. L'allaitement, c'est pas facile. C'est pas facile. Souvent, les parents des nouvelles mamans là, qui allaitent aujourd'hui, elles-mêmes n'ont pas allaité. Donc, vont être plus dans « oh bah écoute, tu souffres, c'est pas mal, qu'est-ce que tu t'embêtes, toi t'as pris le biberon, t'en es pas morte ». Voilà, donc les générations d'avant n'ont pas trop allaité, donc l'accompagnement à la transmission ne se fait pas trop. D'où tous ces consultantes qui apparaissent, ces conseillères en allaitement, c'est que l'allaitement est bien un vrai sujet, si on en a sorti une vraie... profession entre guillemets, hein, tous ces accompagnements à l'allaitement, tous ces livres sur l'allaitement, c'est que l'allaitement n'est pas facile, c'est pas inné, c'est faut arrêter de dire ouais c'est naturel, d'accord, bien sûr que c'est naturel, mais c'est pas facile. Voilà, donc il faut pas hésiter vraiment à se faire accompagner parce que on peut vite basculer et tout lâcher, et c'est dommage, alors que s'il y a juste un petit accompagnement humain, on peut passer la période un peu difficile. Il faut pas hésiter, moi j'encourage sans arrêt les mamans à se faire aider, peut-être même aller en discuter avant l'accouchement. C'est certain, quand on a un vrai projet d'allaitement, qu'on se dit j'ai envie d'allaiter 6 mois, 1 an, 2 ans, un allaitement exclusif, et qu'on entend toutes ces expériences de maman, de maternité compliquées, tout le monde, personne n'a le même discours, c'est compliqué, c'est douloureux. On va se faire coacher par une consultante allaitement qui va vous dire ça va se passer comme ça, si tu as ça, ça se passe comme ça. Ça devient une référente. Moi, je pense qu'il y a des allaitements pour lesquels il y a besoin d'une référente allaitement, d'une petite coach. Une petite coach allaitement, on a une difficulté, on l'appelle, j'ai ça comme si, machin, qu'est-ce que je fais? Eh ben, elle va guider. Et ça devient sa référente et on n'entend pas 12 000 discours. Parce que s'il y a bien un sujet en maternité pour lequel tout le personnel dit des avis très, très, très différents, c'est l'allaitement.
Oui.
L'allaitement, c'est très particulier, l'allaitement. Il y a celle qui le défend bec et ongle, qui est presque trop extrême et qui laisse l'ouverture à rien du tout. Il y a celle qui... C'est vrai que c'est un investissement d'accompagner en allaitement, qui n'a pas du tout envie d'y mettre tout cet investissement. Ce que vous dites le matin n'est plus valable le soir en fonction de l'éveil et des difficultés du bébé. Donc souvent, elle pense que le discours est différent, mais en même temps, c'est parce qu'il évolue tout au long de la journée et durant plusieurs jours. Donc, c'est pas tellement qu'il est différent, c'est qu'il évolue. Le bébé se réveille, il réclame plus, alors qu'avant, on disait fallait pas le réveiller. Maintenant, on dit faut le réveiller. Enfin, c'est ça. L'allaitement, c'est compliqué.
Ouais.
C'est compliqué. Mais c'est passionnant. Et puis, quand on voit le bonheur des mamans, quand elles le réussissent, parce qu'on a réussi à accompagner, à débloquer des situations, waouh. De voir les gens heureux, qu'est-ce que ça rend heureux. Donc voilà, l'allaitement et voilà, c'est le petit sujet, mon petit sujet à moi, mais ça va. Hein. ça va. À côté de ça, ma fille a allaité un an. Voilà. Mais.
Justement, toi, t'es grand-mère maintenant, du coup, tu dois les accompagner.
Ils habitent loin, donc je suis pas très très présente, ouais, mais en tous les cas, avec les nouveaux moyens de communication, on est là sans être là. Mm-hmm. Mais ma grande a 4 enfants, elle se débrouille très bien, elle a allaité, elle a adoré allaiter, elle a adoré mm-hmm. dormir avec ses bébés, elle est vraiment. La maman.
Elle t'a demandé des coups.
Qui s'écoute. Pas trop la première, plutôt la deuxième. Ouais. C'est des tempéraments très très différents. La première est assez indépendante et autonome et elle a beaucoup confiance en elle. C'est une fonceuse, Émilie. Mais voilà, elle se posait pas de questions. Le bébé pleure, je le mets au sein. Tu dors, tu veux dormir à côté de moi, tu dors à côté de moi. Il y a bien un jour où tu arrêteras de dormir à côté de moi. Et en effet, plus personne ne dort à côté d'elle. Donc voilà, elle est pas dans sa tête, elle est dans son ressenti. Elle se pose pas de questions et ça a bien fonctionné comme ça. La deuxième est plus dans le doute. Elle aurait plus eu besoin que je sois là peut-être un peu plus. Un allaitement qui a moins bien fonctionné. Je me retrouvais un petit peu, c'était le tire-lait, c'était les bouts de sang en silicone. Voilà, je me suis un petit peu retrouvée dans son histoire d'allaitement. Elle s'est accrochée comme elle a pu, puis à un moment, elle a dit c'est bon, mais elle a tenu un peu plus que moi quand même. Hein. Mais voilà, c'est pas facile les allaitements. Et puis les deux autres n'ont pas encore de bébé.
Mais elle te demandait des conseils, tes deux filles
Plutôt, surtout la deuxième. Surtout la deuxième, mais en même temps, pas trop non plus. Elles se sont débrouillées assez bien toutes seules, vraiment.
D'accord, vraiment. Là, c'est royal, la personne référente que tout le monde aurait envie d'avoir à côté de soi.
En fin de compte, non, peut-être un petit coup de pouce au démarrage, mais pas dans la longueur en tous les cas. Je crois qu'elles se sont écoutées, elles ont eu confiance en elles, et puis c'est tout. Mmh. C'est le message qu'il faut en réalité faire passer à tous ces nouveaux parents. C'est s'écouter, se faire confiance, et puis regarder son bébé et essayer de déchiffrer leurs besoins, c'est tout. C'est tout. Ça paraît simple, mais c'est juste ça, et lâcher prise.
Ouais.
Si on lâche pas prise, on devient dingue. Donc il faut lâcher prise sur plein de choses. On a les recommandations, c'est ce que je dis aux parents. On a des recommandations et il y a ce qu'on peut.
Ouais.
Voilà, c'est même pas ce qu'on veut, c'est ce qu'on peut. Après, c'est presque une question de survie. S'il dort pas dans mon lit, je pense que soit je le balance, soit c'est moi qui me balance. Alors viens dans mon lit.
Ouais.
Et tout le monde va rester en bonne forme. Mais voilà, les recommandations, c'est bien. Il y a la réalité, il y a des vraies difficultés. On fait comme on peut. On fait comme on peut et chapeau, parce que c'est pas facile. Le bébé a évolué aussi. Les parents, la mère a évolué et le bébé a aussi évolué dans ce monde qui va très vite. On met beaucoup de pression sur les épaules de ce bébé. Il faut qu'il fasse vite ses nuits, il faut qu'il passe vite à quatre pas, il faut qu'il pleure mais pas trop, il faut qu'il dorme dans son lit. Il y a beaucoup de pression sur les épaules de bébé et on ne peut pas leur mettre une telle pression à leur arrivée, c'est pas possible. Et c'est pour ça qu'il faut lâcher prise. Si on lâche pas prise, ce bébé va pas bien aller. On le fait vivre à 100 à l'heure, ce bébé. C'est juste pas possible.
Ouais.
C'est pas possible. Il faut un moment se poser. On a un congé de maternité. Il n'est pas là pour rien. C'est vrai qu'il est trop court. On espère que ça va bouger un petit peu. Là, ça va peut-être bouger un peu pour le père. Mais je me dis que si on en bouge autant pour le père, il faut bouger pour la mère. C'est obligé. Surtout qu'on a une étude et qu'avec le confinement, il y a moins de prématurés. Ça veut dire que toutes celles qui se sont reposées, eh ben, elles accouchent à terme et il y en a plein qui dépassent le terme. Et moi, je les vois à l'école, c'est un truc de fou. Ils sont tous déclenchés parce qu'ils naissent pas, ces bébés. Avant, ils arrivaient prématurément. Ça veut dire que le repos sert à quelque chose. Donc, c'est vrai que ce congé de maternité est trop court, mais ne mettons pas la pression aux bébés. On leur en demande de trop, trop vite. C'est pas possible. Donc, c'est un monde qui va trop vite. C'est un monde qui va trop vite. Il y a une vraie évolution du bébé. Comme ça va trop vite, je trouve qu'il dorme moins bien. Le sommeil du bébé n'a jamais été aussi mauvais que depuis là. Je n'ai jamais eu autant de questions sur le sommeil et sur les reflux. Et moi, je pense que ça fait vraiment partie de l'évolution de notre vie, de notre rythme de vie. Et le bébé dedans, il trinque. J'en suis persuadée. Je n'ai jamais entendu autant de difficultés. Je fais un live, les sujets, c'est le sommeil. Mais le sommeil, lâche prise. Lâche prise et tu vas voir qu'il va dormir. Et le reflux. C'est deux gros sujets pour lesquels, en réalité, il n'y a pas vraiment de réponse. Juste, lâche prise et ça va passer. Le sommeil, eh bien, un jour, il va trouver son sommeil. Mais arrête d'attendre sans arrêt de lui qu'il va dormir. Porte-le en attendant. Porte-le, nourris-le de toute cette sécurité et peut-être qu'il ira dormir dans son lit. Mais s'il ne veut pas, bah, peut-être qu'il n'est pas prêt non plus à dormir dans son lit. Mmh. C'est ça, c'est tout ce... J'arrête pas de le dire, c'est ce lâcher prise. Mmh. C'est avoir confiance en ce bébé et se dire qu'il a des besoins à la naissance... Que chaque enfant a ses besoins. Il y en a qui vont avoir de petits besoins et puis il y en a qui vont avoir des gros besoins plus longtemps. Pourquoi ? Parce que qu'est-ce qu'il a vécu in utero ? Qu'est-ce qui, on ne sait pas, et qu'il se traîne tout ça et qu'il faut le sécuriser pour qu'il puisse aller dormir tranquillement. Mais on a toujours cette date de reprise de travail qui est là et qui nous assomme.
Oui.
Et ben il faut jouer avec ça. Et c'est très compliqué. C'est très très compliqué. Vraiment. C'est pas simple, les mamans elles stressent, hein. Donc ouais. Si les mamans stressent, le bébé il va pas bien.
Ouais, du coup on culpabilise.
Et du coup le bébé va pas bien.
Voilà.
C'est très très touchant parce qu'elles sont paumées.
Ouais.
Elles sont paumées, elles attendent des réponses que je ne peux pas leur donner. En réalité, voilà, elles ont fait le tour de plein de choses et puis en dernier recours, bah, y a Sonia. Mais Sonia elle a pas la réponse du sommeil. Elle n'a pas la réponse. Soit tu le couches, tu le laisses hurler et il va s'épuiser, il va dormir. Mais en même temps, il va s'endormir avec un manque de confiance et en toi et en lui et en la société. Avec un gros tas de stress dans son petit cerveau où il faut que tu attendes qu'il soit prêt. Alors ça peut être 6 mois, ça peut être 1 an, ça peut être... C'est compliqué le sommeil. Mais ça dépend de tellement de choses.
Et alors, il y a eu toute cette évolution, donc toi, que tu as vu par rapport au bébé, au rythme, ce dont tu viens de parler. Et qu'est-ce que tu as vu en termes de... Enfin, dans ton travail, justement, comment il a évolué
Ce qui a beaucoup évolué, c'est la surmédicalisation de la grossesse et de l'accouchement. Ça, c'est assez violent. C'était pas autant que ça, vraiment. Là aussi, ça va trop vite. Il faut vite accoucher, tout est dans l'urgence. Et ça, c'est juste terrible que tout soit dans l'urgence. Purée, elle va mettre son bébé au monde. Arrête de lui dire d'aller vite, arrête de... Tout est dans l'urgence. Donc, la surmédicalisation, c'est sûr.
Les kilos, est-ce que ça a évolué, le nombre de kilos qu'on peut prendre pendant la grossesse?
Je pense honnêtement que les langues se délient, que ce soit les kilos ou autre chose. Les langues se délient, les femmes osent dire qu'elles n'aiment pas être enceintes, elles osent dire qu'elles ne supportent pas ces kilos. Avant, c'était un non-sujet, t'es enceinte, tu prends des kilos, tais-toi et sois enceinte.
Ah oui, il n'y avait pas du coup du côté professionnel cette pression sur les kilos pour la femme enceinte.
C'est vrai que quand on va chez le médecin...
Là, c'est
tous les mois, on passe sur la balance et c'est vrai que c'est un petit peu trop, on nous tape dessus. Mais la dernière fois, hier j'ai fait un live, il y avait une pauvre petite maman qui en était à 30 kilos, à je sais pas quoi. Maintenant, moi, je reste persuadée que ces 30 kilos, c'est pas parce qu'elle plonge dans le Nutella.
Oui.
Parce que même si tu plonges dans le Nutella, tu prends pas 30 kilos. Donc, je pense qu'il y a quelque chose du chimique, du hormonal et que les médecins le savent très bien. Et cette pauvre petite maman, même si elle se met au régime, elle va quand même les prendre, ces kilos, donc, et on les perd. Ah, c'est vrai qu'il faut après une certaine rigueur, il ne faut pas non plus se mettre à la diète complètement, mais on les perd, ces kilos. J'ai envie de dire qu'on nous laisse aussi vivre bien nos grossesses. Déjà que je pense qu'à 30 kilos, on ne les vit pas bien, si en plus on a le médecin qui en rajoute. Après, c'est vrai que c'est tous les risques derrière, hein. C'est pas rien, 30 kilos. Hein. C'est pas rien, 30 kilos, il y a des risques cardiaques et autres, c'est certain. Mais les langues se délient sur beaucoup de choses. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui étaient, mais qu'on n'en parlait pas. L'épisiotomie, elle existe depuis toujours. Donc là, maintenant, c'est vrai qu'on pense qu'il y en a peut-être trop de faites et que là, la moindre épisiotomie, tout le monde s'agite. Voilà, des fois, une petite... Enfin, moi, je pense que parfois, un petit coup de ciseau, quand il doit être fait proprement, il est fait, que de le laisser tout se déchirer n'importe comment. Mmh. Ça, c'est mon point de vue, hein, parce que j'ai vu des choses, des déchirures, c'est-à-dire que c'est déchiré, quoi. Des fois, c'est de la dentelle, ça se déchire dans tous les sens. Mmh. Il vaut mieux faire un petit truc propre avec 2-3 points et c'est clean, plutôt que... Voilà, il ne faut pas non plus s'acharner sur le ciseau, ceci dit. Hein. Mais quand on s'acharne sur le ciseau, c'est qu'on va trop vite. Mmh. C'est qu'on ne laisse pas le temps à ce bébé. Déjà là, il a la pression. On coupe vite et on va vite le faire sortir. Non, laisse-lui le temps de descendre, laisse-lui le temps d'arriver. Et puis, si ce n'est pas toi, cette garde-là, ben, ce sera de la sage-femme, la garde d'après. Moi, je pense que les accouchements sont plus réussis quand ils sont faits par des sages-femmes.
Oui.
Hommes ou femmes, hein. Parce qu'on attend, parce qu'on n'est pas pressé, parce qu'on n'a pas un cabinet plein de patientes qui nous attendent, qu'on arrive en catastrophe, il faut aller vite parce qu'il y a 10 personnes ou 10 rendez-vous qui attendent dans la salle d'attente. Je pense que c'est vraiment la sage-femme qui doit faire l'accouchement. Mmh. Et le médecin, s'il y a une difficulté. Oui. Mais elle va prendre le temps d'assouplir ce périnée, d'accueillir ce bébé tranquillement, pas avec cette excitation. Moi, j'en ai vu des excitations de médecins. J'en ai vu des excitations. J'ai vu cette agitation parce qu'il faut que ça aille vite, parce qu'il a quitté son cabinet, qu'il faut... Ben non, zut. Zut, déjà là, la pression, elle est sur le bébé. Déjà là, c'est... C'est particulier, la salle de naissance. Hein.
Ouais.
C'est particulier, ouais, parce qu'il faut vraiment être dedans pour se rendre compte de ce qui s'y passe. Mmh. Je suis contente de l'avoir vu. Je suis contente d'avoir vu le pire et le plus joli. Le plus joli étant la naissance par ces sages-femmes, lente, respectueuse, de confiance en la femme, de ce pouvoir qu'elle a d'accoucher toute seule, sans personne. Ce bébé qui arrive dans le respect, dans l'obscurité, dans la patience. Et là, moi, elle m'a déclenché mon histoire de bain. Mm. Elle m'a déclenché mon histoire d'accueil de bébé. Et là, l'accueil du bébé a pris toute sa splendeur. Là, on accueille un bébé. Et on accueille une femme qui devient maman et un papa et un monsieur qui devient papa. Là, on accueille 3 naissances à la fois. Mm. C'est magnifique.
Ça a été un déclic pour toi, ça a été un événement.
Cette naissance-là, je ne pouvais pas imaginer qu'on pouvait naître de cette manière. Je ne pouvais pas imaginer qu'on pouvait accoucher de cette manière parce que je n'ai vu que les pieds dans un étrier comme ça et je n'ai vu que ça, moi.
Et c'était au bout de combien de temps que tu as vu cette...
Juste avant la naissance de mon bain, donc il y a 20 ans.
Ouais.
Donc il y a 20 ans.
20 ans après avoir commencé ton
métier. Mais en même temps, 20 ans, il n'y avait pas... non plus toute cette surmédicalisation, ce stress, cette rapidité, ce machin. Il y a 40 ans, il n'y avait pas ça. Il n'y avait pas ça. Hein. On accouchait à notre rythme, quand même les pieds dans les étriers, mais on ne nous mettait pas la pression, on ne mettait pas la pression à ce bébé. Enfin, moi, j'ai accouché 4 fois, je ne l'ai pas du tout vécu comme une pression. Pourtant, j'étais sur le dos, les pieds dans les étriers, machin. Mais je ne pouvais pas imaginer qu'on puisse accoucher autrement que comme ça, de toute façon. Jamais, j'ai jamais vu autrement. Mais quand j'ai vu cette femme-là, à 4 pattes, bouger comme elle voulait, faire le bruit qu'elle voulait, on ne lui disait pas tais-toi, enfin...
Et comment tu t'es retrouvée dans cette salle? C'était une salle de naissance, salle
c'était nature une, c'était une salle de naissance, que la sage-femme en a fait une salle nature.
Okay.
Mais c'était des naissances très physiologiques de ce groupe de sages-femmes-là. C'était le plateau technique de ce groupe de sages-femmes, donc c'était très physiologique. Il y avait un garçon à l'époque, un sage-femme, donc ils étaient connus pour ce côté très physiologique et on accouchait avec eux parce qu'il y avait toute cette physiologie-là.
Et toi, c'est un choix, tu t'es dit j'ai envie d'aller
non,
voir
c'est elle, ce bah, je discutais, j'avais une curiosité d'aller voir ce qui s'y passait, mais de moi-même, j'y serais pas rentrée parce que ça reste très, très. C'est à huis clos, quoi.
Oui.
Ça reste la sage-femme, le couple et personne. Hein. Mmh. Et d'en discuter avec une sage-femme, j'étais en salle de naissance, elle me dit, tu veux venir? Et j'y suis allée.
Wow.
Dans quoi je suis rentrée? Dans quoi je suis rentrée? C'est un écrin.
Oui.
Un écrin de naissance. C'est joli ce que je viens de dire. mais c'est ça, c'est un écrin. J'ai ouvert ça et j'ai vu que des choses merveilleuses. Rien n'était... moche. Ouais. Tout était beau, tout était respectueux, ça sentait bon, tout était bien. C'était silencieux, c'était trop bien. C'était trop bien et voilà. Et en sortant de là, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais après ce bébé qui est arrivé de cette manière-là? Mais quelle continuité il a? Ce qui existe là, ça ne va pas lui aller à celui-là qui est arrivé comme ça, c'est pas possible.
Les soins d'après.
Ah ben oui, non, c'est pas possible, c'est pas possible, parce que nous, on est dans un truc, un protocole, un automatisme de ce qu'on fait. Enfin, c'est ça, hein, les soins à la clinique.
Alors, c'est comment, du coup, les soins ?
Ben, c'est un automatisme, on commence les soins à telle heure, il y a le bain, tu le montres, t'attrapes le bébé comme ça, ça doit aller vite parce qu'il va avoir froid. Enfin, c'est très planifié. C'est très planifié et
sans émotion, quoi. C'est...
Ah bah l'émotion, elle commence tout juste à arriver dans certains postes de soins. Mmh. Il y a encore beaucoup de maternités où il n'y a pas d'émotion, où c'est beaucoup de protocoles. Hein. J'ai eu la chance dans mon parcours professionnel, c'est que j'ai toujours eu des directions qui m'ont fait confiance et qui m'ont laissé faire. Alors peut-être que je dégage de la confiance, je n'en sais rien. Peut-être que de ma curiosité, de mon travail, je ne sais pas ce que ça fait. Mais en tous les cas, même quand je sortais des clous, on n'est jamais venu me dire « Ah non, il faut que tu restes sur les clous. Ouais. » Donc, j'ai toujours eu ma priorité, la sécurité de tout le monde. Donc, ça, c'est bien clair dans ma tête. Je ne ferai jamais rien qui mettra en danger le bébé ou qui que ce soit. Mais même en y mettant de la sécurité, tu peux mettre plein de choses autour. Mmh. Tu peux mettre plein de choses autour. Donc, laissons tomber tous ces protocoles. Quand on a un bébé qui va bien, je ne parle pas de néonates avec des bébés à 800 grammes, mais je dirais que la plus grande partie des naissances, ce sont des naissances qui vont bien. De bébés en bonne santé, nés à terme, pourquoi mettre des protocoles à cet endroit-là?
Alors, comment t'as fait en sortant de cet accouchement
Eh bien, je me suis dit, il faut que j'essaye des choses sur les bébés. J'y suis allée tout doucement. Ça a commencé par la petite douchette. Mmh. Comme moi, je prenais ma douche, je voulais savoir s'ils ressentaient la même chose quand l'eau coulait sur leur visage.
Parce que tous les bains que tu donnais avant, c'était...
Classique, on prend le bébé à l'époque et encore maintenant, on appelle ça une pince de sécurité. Mmh. On a des tas de mots comme ça qui déclenchent, qui sont anxiogènes. Quand on appelle une pince de sécurité, sécurité, ceinture de sécurité, tu ne mets pas ta ceinture, tu as un accident et tu peux mourir. On peut imaginer que dans le bain, c'est pareil. Donc la pince de sécurité, on appelait ça. Ou alors on appelle ça une pince de crabe. Mmh. C'est beau, il y a de la poésie. Hein. Il y a de la poésie. Donc ben voilà, il faut tenir le bébé comme ça. Il ne faut pas qu'il reste longtemps dans l'eau. Dans beaucoup de maternités à l'époque et encore aujourd'hui, on savonnait les bébés à l'extérieur. Le pleur, c'était normal au moment du bain. Ça fait partie du truc. Ça va pleurer un bébé parce que ça a froid. Moi, j'ai jamais savonné à l'extérieur, alors qu'on me l'a appris comme ça, mais c'est un truc que je ne pouvais pas faire. Pour moi, c'était complètement illogique de savonner un bébé à l'extérieur. Mais une fois que tu as dit qu'il faut aller vite parce que le bébé a froid, plutôt que d'aller vite, est-ce que tu peux essayer de réfléchir à quelque chose pour qu'il n'ait pas froid ? Tout simplement. C'est dans ma démarche de réflexion du bain, c'est essayer de reproduire le plus possible ce qu'a été la vie du bébé dans le ventre de sa mère pour pouvoir... C'est comme si j'avais envie de lui offrir de nouveau quelques petits souvenirs avant que ça aille se ranger dans un petit tiroir de son inconscient, dans sa mémoire. Et j'ai disséqué chaque chose, chaque étape de tout ce que je faisais avec les bébés. Chaque fois que j'avais un pleur, il fallait que j'analyse ce pleur et que je me dise « Mais là, t'as un pleur. Qu'est-ce que tu peux lui proposer pour qu'il n'y ait plus de pleurs ?» Et ça a pris beaucoup de temps. Ça a pris beaucoup de temps parce que je n'avais aucun objectif avec cette histoire de bain que de m'améliorer pour les bébés, mais que pour moi.
Ouais.
Sauf que ça s'est su et que j'en suis là aujourd'hui. Mais je voulais juste que ce bébé qui était joliment né puisse avoir des soins derrière qui ressemblaient à sa naissance et du coup en faire profiter tous les autres bébés. Donc, j'y suis allée par étapes. Il y a eu la douchette, il y a eu le sous-l'eau, il y a eu l'enveloppement, il y a eu le regroupement, il y a eu le temps, il y a eu le bercement, Et puis voilà, au début, j'ai fait un petit peu dans mon coin sans que personne ne me regarde. Surtout pas mes collègues. Parce que je n'ai pas eu que des copines. Non, le monde féminin est compliqué, hein.
C'est ce qu'on disait tout à l'heure.
Le monde féminin est très compliqué, donc je me planquais un peu pour faire ce que je faisais. Dès que j'avais une collègue qui rentrait, j'arrêtais, puis je redevenais celle que, voilà, celle que je devais être. Et puis j'ai fait devant les parents, et les parents ont été assez surpris du résultat, et puis ils en ont parlé à leur médecin, qui en ont parlé à la direction, et puis les commentaires sur les feuilles de sortie parlaient beaucoup de mon bain, et puis j'en suis là aujourd'hui. Et puis une autre clinique est venue me chercher justement parce que j'avais cette particularité là je parlais beaucoup au bébé. J'ai une cadre justement qui travaillait là dans cette dernière clinique que je viens de quitter, qui me disait si je fais venir quelqu'un justement dans cette clinique, ce sera toi, parce que je n'ai jamais vu quelqu'un qui parle autant au bébé que toi. Donc voilà, je dirais que ma particularité m'a emmenée dans cette dernière clinique, ce sera la dernière.
Est-ce que tes collègues petit à petit ont pris ta technique, ou vraiment pas du tout, c'est resté
Ça a été dur.
Ça a été dur.
On m'a fait
on a parce vraiment que les changements,
Le changement dérange.
Oui.
Il y en a qui sont très bien comme ils sont. Faut pas déranger, c'est confortable. Ils sont heureux comme ça, c'est bien. Mais pour autant, t'as pas besoin d'aller tirer dans les pattes de celle qui essaye de faire quelque chose. Moi, j'ai envie de dire que tant que t'es heureuse dans ce que tu fais, c'est bien. Mais viens pas me... Voilà.
Oui, toi, tu l'imposais pas aux autres.
Mais certainement pas. Alors, ouvertement, ça n'a pas été accepté. On est venu regarder un peu. Petit à petit, je me suis rendu compte, ah, bah tiens, c'est bizarre, elle fait. Mmh. Mais il fallait surtout pas dire que ça venait de moi ou je ne sais quoi. Je dirais que mes collègues proches, ça s'est pas bien passé, vraiment. Ça s'est pas bien passé, à part là, ces derniers temps. C'est dur. Le monde féminin est très dur, est très très dur. La jalousie, je veux bien. On m'a souvent dit c'est humain, d'accord. Après ça, comment tu fais? C'est dur. C'est dur à vivre. C'est dur à vivre, ça fait très mal, parce que dans mon travail, mon objectif n'est pas de faire mal, mais qu'en retour, on me fait mal, alors je comprends pas trop, je n'ai rien imposé à personne, sauf à moi-même, mais comme je disais, j'ai toujours eu la direction et les médecins avec moi. Pour moi, c'est ce qui est le plus important, parce que c'est eux qui vont me permettre de mettre en place des choses. Que mes collègues ne m'aiment pas, c'est pas grave.
Ouais.
C'est pas grave. J'ai pas besoin d'elles. Moi, j'ai besoin de persuader la direction et les médecins qu'il y a un truc à faire là. Alors parfois, ils s'en sont rendus compte. Parfois, ils sont passés à côté. Ah, c'est compliqué, mon histoire professionnelle. Hein. De rencontre, c'est très compliqué. Mais je vais parler de cette dernière clinique et de mon dernier directeur qui a vraiment cru en mon histoire de bain, qui était désolé que pendant 10 ans, les directeurs qui se sont succédés n'avaient rien fait de mon travail. Lui, arrivant il y a 2 ou 3 ans, bah, il est presque trop tard, parce que moi, je suis dans une autre réflexion. J'ai une sage-femme que j'aime, une vraie vocation de sage-femme, qui me disait tous les jours, mais je ne te remercierai jamais assez de m'en avoir autant appris sur les bébés, mais sans lui dire viens je t'apprends. C'est qu'elle venait, elle me voyait faire, elle s'arrêtait, elle se posait comme ça devant la baignoire, elle s'émerveillait, elle n'en revenait pas, elle pleurait des bains que je faisais, elle pleurait de l'émotion des parents qu'ils avaient pendant le bain. Et tout ça a fait qu'on a beaucoup discuté, qu'on a vraiment eu un vrai travail d'équipe sur des tas de sujets, sur l'allaitement, le pot à pot, l'emmaillotage, mais c'est ça un travail d'équipe, parce que moi, toute seule dans mon coin, je ne peux pas faire bouger les choses. S'il n'y a pas des gens qui veulent bouger avec moi ou ensemble, tout seul, on ne peut rien faire.
on peut rien faire. Et mon objectif, c'est qu'il y ait une vraie réflexion autour de ce sujet-là, de l'accueil du bébé, et qu'on en fasse quelque chose et qu'on évolue pour le bien-être des parents et du bébé, et du professionnel aussi, parce que si on a des parents et des bébés heureux, ça rend le professionnel heureux. Ça le valorise parce qu'il sait qu'il a fait quelque chose de qui émotionnellement a enrichi la maman et que... Enfin voilà, j'ai du mal à comprendre ce genre de comportement, vraiment. Mmh. J'ai vraiment du mal à comprendre. Hein. Mmh. Du coup, je peux plus m'entourer de ces gens-là. J'ai besoin de baigner. J'ai besoin de me retrouver parmi des femmes et des hommes qui ont cette même philosophie d'accueil et de soins et d'humain surtout. Mmh. Je peux plus de ces ondes négatives, de ces chuchotements, je peux plus. Oui. Je peux plus, c'est pas juste. C'est pas juste parce qu'au bout du truc, c'est les parents qui trinquent et le bébé. C'est pas juste. Donc, je suis contente d'avoir terminé ce genre de travail. Je suis contente. Voilà. Alors, bizarrement, les professionnels avec qui je bossais, ça n'allait pas. Mais de l'autre côté, j'avais des demandes de formation.
Oui, comment c'est venu tout donc, ça, justement
ben, mais j'ai posté une vidéo qui a fait le buzz sur YouTube, hein, qui est la vidéo des jumeaux. Hein. C'est par là que vraiment tout a commencé. Il y a peut-être 8 ans maintenant, ils doivent avoir 8 ans. Et puis j'ai eu plein de messages de professionnels. Est-ce que vous formez ? Est-ce que vous formez ? Je dis, mais non, je ne suis pas formatrice. Moi, pour moi, j'étais cantonnée dans mon histoire d'auxiliaire de périculture et toute ma vie, je serais juste auxiliaire de périculture. Ce que je suis, ce que je défends, c'est certain. Mais je n'imaginais pas que je pouvais être autre chose. Oui. Et au bout d'un moment, je me suis dit, à force de me demander, va voir comment est-ce qu'on fait pour être formatrice. Et j'ai fait ma démarche et je suis devenue formatrice et j'ai pu répondre à certaines de ces personnes en disant, oui, je peux te former, mais seulement si tu travailles en maternité, parce que ma formation, elle ne se fait pas sur des poupées. Mon bain est beaucoup basé sur les émotions du nouveau-né et des parents. Sur une poupée, ça ne va rien dégager comme émotion. Donc, il me fallait des nouveau-nés. Et là où on peut trouver des nouveau-nés, ça reste quand même la maternité. De quelques jours, c'est la maternité. Donc, je ne pouvais former que le personnel de maternité. Et à toutes les autres, je répondais, mais ce n'est pas possible. Regarde voir s'il y a une maternité qui accepte. Et ça ne se faisait pas. Et donc, je ne formais qu'en maternité. Et ça a été un vrai bonheur. Les personnels de maternité étaient trop, trop contents. J'avais des retours, on me disait, mais c'est ma bulle d'oxygène dans mes soins, parce qu'on se met vraiment dans une bulle. Mmh. On se met dans une ambiance de ce bain. On n'est pas dérangé. On arrête le temps. On prend le temps et on baigne.
Oui, les vidéos, c'est impressionnant. C'est envie d'être le bébé, quoi.
Oui.
Dans un moment suspendu.
C'est ça. Mmh. Et c'est un bain d'émotions. L'émotion du bébé, l'émotion des parents, notre émotion. L'émotion, elle est de partout. Elle flotte dans l'air. Mmh. Et qu'est-ce que c'est bon. C'est-à-dire qu'on ressort de ce bain, on a la même détente que tout le monde, parce que c'est un vrai shoot d'ocytocine, ce bain, hein, pour tout le monde. On se fait plaisir, on se fait du bien. Et quand on me dit, c'est ma bulle d'oxygène, je me dis, waouh, mais j'ai tout gagné. Oui. J'ai tout gagné parce que j'ai envie que l'auxiliaire de puériculture soit heureuse dans son travail. J'ai envie qu'on la reconnaisse pour une qualité de travail, pour ce qu'elle peut donner, ce qu'elle peut apporter. Donc moi, j'étais tellement heureuse de les former. J'étais heureuse quand j'entendais une professionnelle me dire, mais tu sais qu'au moment des bains, on a diminué de 80% les pleurs au moment du bain. C'est énorme. C'est énorme. Le bain fait partie. C'est-à-dire qu'au lieu de brancher la musique là, que je fais maintenant, avant, il n'y avait que des pleurs de bébé dans un poste de soins. Mais on, je dirais qu'on a grandi professionnellement avec ces pleurs. Donc, on ne les entend même plus. On faisait notre truc, les bébés pleuraient, on continuait, on ne s'arrêtait pas, on ne se disait pas, tiens, je vais t'arrêter, je vais te calmer, je vais te reposer. Non, on allait jusqu'au bout, on traçait droit comme une machine. Que maintenant, mais même pas, même temps, le bébé il pleure, il s'arrête, on le prend dans les bras, on le calme, on va le mettre au sein, on revient après, t'es nu dans ta serviette, c'est pas grave. Enfin, voilà, c'est ce que j'ai envie de transmettre aux parents, en tous les cas, c'est ne soyez pas des machines. Écoutez votre bébé, écoutez ses besoins, il pleure au moment de la sortie du bain, bah, tu vas pas continuer à le sécher, l'habiller dans les pleurs. Calme-le, va le remettre au sein s'il veut aller retourner au sein 3 minutes, redonne-lui un petit peu à boire au biberon s'il veut, et tu vas voir, repose-le après, et il accepte la suite des soins sans pleurs, juste parce que tu as pris le temps, tu as écouté là, il pleure pas pour t'embêter à la sortie du bain, il pleure parce qu'il y a quelque chose qui va pas. Solutionne ce truc qui va pas et reprends derrière. On n'est pas... Si c'est aussi ce truc-là, c'est expliquer aux parents qu'il faut savoir s'arrêter dans un soin. On peut pas tracer, on n'est pas sur des machines. On va tellement leur mettre de stress par la suite. Bah déjà, dès que les parents vont reprendre le travail, il faut vite le réveiller, il faut vite l'habiller pour aller chez la nounou, il faut vite lui donner le bain, il faut vite se préparer pour aller à la crèche, il faut vite rentrer à l'école maternelle. Donc, le vite, il va arriver là. Laissons-lui un petit peu de temps là où c'est juste lui qui nous oblige à nous poser et à ralentir. C'est lui, c'est l'enfant qui nous oblige à ralentir. Parce que la rapidité, il n'aime pas. Si tu vas trop vite, il va te faire payer. Donc, prends le temps, écoute-le et va à son rythme. C'est souvent ce que je dis, c'est que c'est nous qui habitons chez le bébé à son rythme. C'est pas lui qui va venir habiter à notre rythme dès sa naissance. C'est pas possible. Il peut pas. Il, de toute façon, il est pas organisé pour ça. Donc ça sert à rien.
Et ces bains aussi, ça permet une certaine connexion entre les parents, plus dire les mamans et le bébé, qui se crée pas forcément dès l'accouchement, comme on peut voir dans les films.
Ouais.
Dépression postpartum, baby blues, etc.
C'est-à-dire, comme c'est un bain qui, émotionnellement, est très fort, là où il a manqué un peu d'émotion, il va y avoir comme un courant électrique qui va se faire. Et j'en ai eu tellement d'exemples, et j'en ai eu tellement de retours aussi de professionnels que j'ai formés dans ces liens d'attachement ou fragiles ou inexistants. Et parfois, c'est inexistant. Il y a des situations, surtout... Enfin, chaque fois que moi je l'ai rencontré, c'est quand il y a une anesthésie générale pour une césarienne en urgence. Quand le son est coupé entre la maman et le bébé, le son est coupé, ça veut dire qu'on a débranché la prise. Et il faut recréer l'émotion. Il faut aller toucher la maman en plein cœur. Et où est-ce qu'on va mettre de l'émotion ? Il faut faire le bain. C'est pas « il faudrait », là, c'est vraiment une urgence. Quand le lien n'existe pas, c'est pas « il faudrait ». Le mot « il faut », j'évite de l'employer. Mais là, il faut créer l'émotion. Il n'y a que comme ça qu'on va rebrancher le courant par un bain. Et ce qui est absolument, absolument essentiel, c'est le pot à pot. Qui n'est encore de nos jours pas fait. Et qu'on ne vienne pas me dire « oh ben si, on fait le pot à pot à tous les nouveau-nés ». Ben c'est bizarre parce que moi, quand j'ai essayé ensuite de couche et que je demande aux parents « Vous avez fait le pot à pot ?» Eh bien, il y en a quand même beaucoup qui me disent non.
Ah oui.
Et comme on ne parle pratiquement que du pot à pot de la naissance, les parents qui ne l'ont pas fait à la naissance ne s'imaginent pas qu'on peut le faire même après la naissance, qu'on peut le faire même pendant plusieurs mois. Donc, ils se disent « Ah ben non, je ne l'ai pas fait. » Moi, je récupère les mamans à l'école. Là encore, là, ma dernière formation, c'est une des naissances difficiles. Il y a eu une séparation parce que le bébé n'allait pas bien, donc la rencontre ne s'est pas faite, toute la culpabilité de la mère, que c'est à cause d'elle que le bébé est dans cet état, qu'il va pas bien, enfin c'était un truc incroyable, elle a fait une hémorragie, enfin rien n'a été, et on lui a pas proposé de pot à pot par la suite. La rencontre ne s'est pas faite. Moi, je la récupère à l'école et je lui demande si, en fonction de son histoire, je me dis peut-être que le pot à pot n'a pas été fait. Bingo, le pot à pot n'a pas été fait. Et on sent une difficulté, une peur, justement, de faire ce pot à pot. C'est pas qu'elle ne sait pas en réalité, parce qu'il faut creuser. Moi, je prends le temps, mais je suis là pour creuser, pour trouver des solutions. Donc, je vais creuser et en fin de compte, c'est pas qu'elle ne sait pas le faire. Ce qu'elle a peur, ce dont elle a peur, c'est de rencontrer son bébé. Et elle a peur de l'émotion qu'elle pourrait avoir ou ne pas avoir si elle fait du pot à pot. Donc elle se protège et elle ne le fait pas. Ça veut dire que même pour un pot à pot, il faut un accompagnement. Alors que là aussi, comme pour l'allaitement, on pourrait dire c'est naturel de faire un pot, tu prends ton petit, un pot à pot. Tu le prends le petit, tu le mets contre toi, tu fais un pot à pot. Mais non, c'est pas si simple parfois. Parfois on a peur de cette rencontre qu'on avait imaginé dans les 5 premières secondes de la naissance, qui au bout de 8 jours n'est toujours pas fait, et que même pas plus que ça, et que du coup, ben, qu'est-ce que je vais ressentir, qu'est-ce que, ben, elle avait peur, elle a pas fait, on lui a fait faire à l'école, alors que ma formation n'est pas faite pour faire du poids à peau. Je veux dire que moi j'ai une mission, c'est d'enseigner pour le bain, c'est pas pour enseigner le poids à peau. Mais en même temps, là il y a une urgence extrême de faire se rencontrer cette maman et ce bébé. Pour moi, le pot à peau est la rencontre. S'il n'y a pas de pot à peau, la rencontre n'est pas faite à 100%. Sans compter que je suis de plus en plus persuadée que dans les attentes du nouveau-né, je pense qu'il a des attentes aussi, il y a ce pot à peau. Non seulement il va manquer à la mère, mais il va manquer au bébé. Il attend ce pot à peau, il attend cette rencontre de chair à chair. Et quand ça ne s'est pas fait, il y a une difficulté quelque part. Et je le remarque au bain, ça aussi, quand le pot à peau n'est pas fait. La rencontre n'est pas faite. Donc, c'est pas grave si ça n'a pas été fait dès la naissance. Parfois, on ne vous l'a pas proposé alors que ça aurait pu. Parfois, il y a des difficultés. Parfois, où la maman est transférée, ou le bébé est transféré, mais il n'est jamais trop tard pour faire un pot à peau. Il y a une maman qui m'a écrit, elle me dit, mon bébé a 4 mois, j'ai jamais fait, est-ce que c'est tard? Bien sûr que non, c'est pas tard. Ça aurait été préférable avant 4 mois, parce que 4 mois, c'est 4 mois quand même. Hein. Mais en même temps, avec 4 mois, on peut faire encore du pot à peau. C'est pas grave, mais je me dis quand même, 4 mois, elle a pas eu de pot à peau. Personne ne lui a dit un jour, t'as fait un pot à peau? Alors que c'est magique ce moment de peau à peau, de connexion entre le bébé et le parent. C'est un truc de fou. C'est magique le peau à peau. C'est, émotionnellement, c'est pour moi le premier acte d'amour d'un bébé, c'est le peau à peau. C'est l'accueil du bébé. Et on en revient à, mon sujet n'est pas le bain, c'est l'accueil du bébé. Mais j'ai mis du temps à travailler tout ça. Hein. Je ne le travaille même pas, mais au fur et à mesure de mes pratiques, mes réflexions avancent. Et je me rends compte que quand je me mets à parler du bain, vous voyez, sans m'en rendre compte, je me mets à parler de l'accueil. Ouais. Parce que mon sujet, c'est l'accueil du bébé. Il est indispensable de bien accueillir son bébé. Parce que ce bébé est dans l'attente d'être accueilli de telle ou telle manière. Et que s'il ne l'est pas, il démarre avec un manque de quelque chose. Donc je me sers du bain pour... Et moi je suis OK avec ça. Et là je pense que je suis vraiment dans mon sujet pour le coup. Là je pense que j'ai bouclé la boucle.
Et tu as écrit un livre d'ailleurs à ce sujet-là pour les 30 premiers jours.
Ben oui, alors c'est j'accueille mon bébé les 30 premiers jours parce que je dirais qu'au fil des années, je me rends compte que au bout d'un mois, les parents sont un peu plus à l'aise avec leur bébé. Il y a vraiment ces 3 semaines, un mois de fragilité, de temps de comprendre un peu plus son bébé, d'être un peu plus à l'aise avec différents sujets. C'est pour ça que je mets 30 jours. Mais en même temps, je pense qu'on accueille, on ne va pas les appeler nos bébés toute leur vie, mais je pense que toute notre vie, on accueille nos enfants. Et puis cet accueil évolue sans arrêt, mais en réalité, on n'a pas fini d'accueillir nos enfants. On est toujours là pour eux, on les accueille tout le temps, on les accueille avec grand plaisir. Enfin voilà, le mot accueil, c'est très large le mot accueil. Mais c'est vrai qu'il y a 2, 3, 4 semaines de doute, de on ne sait pas trop, de... voilà, c'est vraiment ma réflexion, c'est ces 30 jours maintenant, c'est tout le temps, hein. On est en train de parler des 1000 premiers jours, on est en train de parler de tout ça, mais c'est déjà pas mal 30 jours, qu'on les accueille déjà à la naissance, et puis tranquillement après, sans pression, sans se mettre de barre trop haute, sans essayer de ne pas faire d'erreur. Et ben oui, trompez-vous et puis trouvez une autre solution et puis tu vas trouver la solution. C'est pas grave, c'est pas grave, mais c'est en expérimentant. J'ai sans arrêt des questions de parents. Est-ce que vous pensez que à quel âge on change la tétine, premier âge, en deuxième âge? Eh ben un jour t'essayes. Si tu vois qu'il boit en 3 minutes, c'est que c'était trop tôt. Si tu vois qu'il met 1 heure à boire premier âge, essaye le deuxième âge. Ben voilà, il faut expérimenter. Il n'y a pas de
à quel âge et combien. Et non, c'est chaque bébé est différent. Il faut tenter, il faut expérimenter. Et à chaque fois qu'on trouve des solutions en tant que parent, mais qu'est-ce qu'on est content d'avoir trouvé pour son enfant. Et ne pas se caler à ce qu'a fait la voisine, la copine, la cousine, la sœur. Découvrez le mode d'emploi de votre enfant. Il y a pas de, il y a des bases qui sont à peu près les mêmes pour tout le monde, mais les variantes sont vachement importantes, vachement importantes. Chaque bébé a son rythme, chaque bébé traîne derrière lui déjà beaucoup d'histoires, les histoires de parents, les histoires de générations passées, les histoires de son utéro, de sa naissance, de son accueil. Il y a autant de modes d'emploi que d'enfants et que de parents. C'est ce que je dis à mes élèves. On ne se lassera jamais. Tant qu'on n'aura pas rencontré tous les bébés et tous les parents, on ne peut pas se lasser. À chaque fois, on rencontre une histoire différente. Et c'est ce qui fait la richesse de notre travail et qu'on ne s'ennuie pas. C'est un accompagnement différent à chaque fois. Et à chaque rencontre, c'est une surprise parce qu'on ne sait pas ce qu'elle va être.
Et comment on fait alors si on veut que son bébé soit accueilli par un bain de Sonia
Alors depuis un an, il y a notre jolie école du bien-être que moi j'aime assez appeler, c'est l'école des émotions. C'est l'école des émotions des parents, c'est l'école des émotions des élèves. Des élèves qui parfois sont beaucoup en souffrance. Parce qu'on ne leur laisse pas le temps. C'est des métiers de vocation, hein, les métiers de santé en principe. Hein. C'est des métiers d'humain. Quand on choisit ce métier, c'est qu'on a envie de donner, on a envie d'être au service de l'humain. Et malheureusement, il faut laisser tomber l'humain pour le rendement. Il faut arrêter de faire de l'humain et il faut faire du rendement. On n'a plus le temps, on a des professionnels vraiment en souffrance qui ne sont plus du tout en accord avec ce pourquoi ils ont choisi leur métier et qui viennent pousser la porte de l'école et qui ont envie de renouer avec l'humain, avec le temps, avec le service, avec l'accompagnement. Donc elles vont venir suivre des formations à l'école, hein. Il y a au moins 18 formations très 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 variées. Vraiment des demandes de parents, hein, des formations assez basiques dans les demandes, mais on élargit à beaucoup de choses. On met l'émotion, on a des formations sur des libérations d'émotions, sur des mémoires de naissance. Ce n'est pas que des formations pratiques, il y a aussi tout l'émotionnel qui est au centre de cette école. Donc on forme les professionnels pour que ben justement ces parents puissent aller à la rencontre des professionnels suivant le sujet qui les intéresse. Ça peut être de l'accompagnement en allaitement, ça peut être de l'accompagnement global, ça peut être apprendre à nouer une écharpe, ça peut être j'ai envie de me faire masser enceinte, j'ai du mal avec mon image corporelle et peut-être que si on vient me toucher un peu mon ventre, mes jambes, peut-être que je me réconcilie un petit peu, hein, on n'oublie pas la maman dans tout ça. On forme toutes ces... elles vont devenir des accompagnantes ou accompagnatrices à la périnatalité et à la parentalité. Pour moi, c'est des petites fées. C'est des petites fées qui vont aller soulager émotionnellement les parents. L'émotion est vraiment au centre de cette école. Donc, on va mettre en relation toutes ces personnes et on va mettre d'ailleurs en place une plateforme d'ici quelques jours qui s'appelle « Mes premiers jours ». Mes premiers jours, ça va être un répertoire des personnes qu'on a formées et plus tard des professionnels de santé, des parents d'un autre côté. J'habite à telle région, je cherche un accompagnement en massage bébé, en naturopathie, en réflexologie. Je clique sur ça, il apparaît toutes les personnes qui sont formées dans le domaine qui intéresse la maman, elles se mettent en contact, elles se prennent rendez-vous et elle a quelqu'un. Donc on a nos petites ambassadrices labellisées l'école du bien-être, ce qui est vraiment maintenant un label de qualité. Donc on a mes premiers jours qui arrivent et puis si on veut un bain de Sonia, soit on passe par l'école parce que comme je vous ai dit, ma formation c'est sur des vrais bébés. Donc, j'accueille pour mes formations des bébés entre la sortie de la maternité et 20 jours.
D'accord.
On fait des bains à quatre mains. Une élève, même s'il y a trois élèves, mais il y a une seule élève avec moi, on fait des bains à quatre mains. Les parents sont là.
Là, durant le Covid, c'est plutôt un parent que deux. Mmh. Et on fait un bain à quatre mains qui est aussi joli que si je le faisais qu'avec mes deux mains, parce qu'à aucun moment je me servirais de ces bébés comme un... L'émotion est partout dans cette pièce, ça pleure, ça sanglote, ça répare. Pour vous dire, on fait du pot à pot, on fait de l'allaitement, j'ouvre à tout. Enfin, là où on a besoin de nous, je veux qu'on soit présente, mmh. même si on est pendant une formation.
Donc, il dure combien de temps ce moment ?
Une heure.
Une heure, ok.
Une heure, donc c'est quand même déjà un bel accompagnement. Et j'offre le bain, puisqu'on nous confie les bébés pour la formation. Moi, en échange, et ben je leur offre le bain et cet accompagnement qui dure une heure, parfois un petit peu plus. Mais c'est pas grave, on est sur de l'humain, on n'est pas sur une machine qu'on débranche, ça fait une heure, au revoir et merci. Non, c'est passionnant. C'est tellement fort en émotion, les élèves sont très émus, ça pleure beaucoup, ça vient remuer les filles, ça répare, c'est un bain qui répare, mais ça répare le bébé, ça libère le bébé et les parents, mais ça répare un peu les élèves aussi. On ne pousse pas la porte de cette école comme ça au hasard. Mmh. Des écoles, il y en a, des centres de formation, il y en a, mais cette école-là a une philosophie qui a démarré de ma philosophie, puisque ça a démarré de mon histoire de bain, cette école. Il y a une philosophie, on a eu la chance de rencontrer plein de formatrices qui, chacune dans son coin, avait ce genre de philosophie. Et ben, on a essayé de regrouper toutes ces belles personnes autour de cette école et on fait vraiment, vraiment un accompagnement très riche humainement. Les élèves entre elles se soutiennent, c'est un truc de fou. Elles créent des groupes entre elles. Je suis étonnée de ce qui se passe dans cette école. Tout ne s'explique pas. Il y a certaines choses, les mots n'existent pas. Il faut juste le vivre. Mmh. Il faut juste le vivre pour se rendre compte de ce qui se passe dans cette école. C'est assez incroyable. Et quand je vois qu'en un an, on en est déjà là, je me dis, ouais, c'est vraiment une école différente. On vient chercher l'émotion. L'émotion est au centre. J'ai même pas envie d'appeler ça du soin parce que personne n'est malade, en tous les cas, en surface. Ouais. En profondeur, on a certainement des petits bobos. Donc, l'émotion au centre de l'accompagnement. On guide, on n'impose pas. On va s'arranger pour que ce soit les parents qui trouvent les réponses. On va guider un peu, mais c'est les parents... On va leur faire prendre conscience qu'en réalité, ils ont les réponses à leurs questions. Il faut juste qu'ils se fassent confiance. Et ça, c'est vraiment dans notre accompagnement. Et c'est comme ça que les filles ont envie d'accompagner aussi ses parents. C'est je ne vais pas t'imposer des choses, on va y aller ensemble. On va trouver des solutions ensemble. C'est humainement tellement riche. C'est passionnant. Moi, je me passionne de... C'est passionnant, donc plein de jolis projets avec cette école, ce livre, j'ai beaucoup de parents qui me disent, c'est même pas un livre de conseils, je voulais pas en faire un livre de conseils, il y a un mot qui apparaît très très souvent dans ce livre, c'est le mot confiance. J'ai vraiment envie que ces parents prennent conscience qu'ils ont tout en eux et qu'il faut juste leur faire confiance. Sauf que pour qu'ils se fassent confiance, ils ont besoin d'entendre d'un professionnel qu'on a confiance en eux. Et si moi j'ai confiance en toi, purée, si toi t'as confiance en moi, ben, il faut que j'y aille, quoi. T'as pas peur, Non, j'ai pas peur. J'ai confiance en toi. Je sais que tu vas y arriver. Elle va le faire. Elle va y arriver. Sauf qu'elle a besoin, d'entendre j'ai confiance en toi. Tu es capable de le faire. Tu connais ton enfant. Essaye et tu vas trouver. Et ça, c'est rien, mais à la fois essentiel pour que les parents y aillent.
Et alors, qu'est-ce que ça a changé chez toi, la maternité ?
Je pense que mes enfants m'ont vraiment fait découvrir le monde de l'enfance, c'est certain. Mais la patience, l'écoute, comprendre que chaque enfant est différent, vraiment... Là, j'en ai trois qui ont fait, par exemple, un parcours scolaire tout droit, et le dernier qui est parti à droite.
Et vous dites, mais pourquoi tu ne vas pas tout droit comme les autres? Mais c'est juste parce qu'il n'est pas les autres. Même si on prévoit quelque chose pour lui, accepter que lui ne va pas forcément dans le moule dans lequel tu aimerais le mettre. Je pense que c'est ma plus grande leçon. Ma plus grande leçon, et je remercie justement mon quatrième de m'avoir ouvert les yeux sur ça. Et je pense qu'avec lui, j'ai encore plus découvert la confiance. Parce que si je ne lui avais pas fait confiance, si je ne l'avais pas accompagné là où il voulait aller, d'abord il aurait été malheureux. Il n'aurait pas réussi, forcément, puisque je l'obligeais à faire quelque chose qu'il n'avait pas décidé de faire. Et je pense que c'est la confiance, avoir confiance en ses enfants. Ça, c'est une évidence. Ayez confiance en eux, vraiment. Et au fur et à mesure que je vous parle, je prends conscience d'autres choses en même temps. C'est ça qui est intéressant quand on discute. C'est ayez confiance en vos enfants. Vraiment, ils sont pleins de capacités, mais dès la naissance. Dès la naissance. Quand je dis qu'ils sont fragiles et forts à la fois, mais c'est toute l'enfance qui est comme ça. Ils sont fragiles parce qu'ils sont des enfants, qui sont des bébés, mais en même temps, ils ont tellement de ressources. Mais toute leur vie d'enfant, ils ont des ressources, et plus tard à l'âge adulte. Mais le mot confiance, je prends conscience que le mot confiance est encore plus vieux que ce que je peux imaginer. La confiance. Transmettez ça à vos enfants. Des racines. J'adore cette phrase. Des racines et des ailes. Les racines, c'est là tout de suite. C'est déjà in utero, mais c'est quand ils vont naître encore plus. Transmettez toute cette confiance, cette sécurité, quelques valeurs, parce que on n'est pas non plus vieux jeu quand on inculque quelques valeurs à nos enfants. Moi, je pense qu'il le faut. Et on pose les fondations. Là, quand ils sont nouveau-nés, on pose les fondations. Et on monte tout doucement les fondations. Et après, ça monte tout droit. Ça va vouloir aller explorer à droite, explorer à gauche, comme un arbre. Comme un arbre, comme ses racines. On a mis des racines, mais ils vont vouloir aller soulever du bitume. Ils ont la force de faire tout ça. Ils ont des branches qui vont dans tous les sens. Moi, j'ai une passion pour tout ce qui est capable de faire un arbre. Et pour moi, je trouve que ça représente vraiment un enfant, un arbre. Les racines, c'est nous. Et tout ce qui va passer autour, c'est grâce à tout ce qu'on a transmis. On peut être fier de ça. Il faut être fier de tout ça.
On va passer aux petites questions de fin d'épisode.
Allez.
C'est quoi pour toi être une maman parisienne ?
C'est une maman qui va à 100 à l'heure. Je suis triste de ma réponse, hein, mais c'est une réalité. C'est une maman qui vit à 100 à l'heure. C'est une maman qui n'intègre pas forcément que la maternité, avoir un enfant, ça change ta vie. C'est-à-dire, si tu n'as pas intégré que tu ne vas plus avoir la même vie après, attends pour faire un enfant. Voilà, c'est juste ça. Moi, je mets quand même l'enfant et le bébé, c'est une priorité. Après, tu peux organiser ta vie pour avoir tes sorties, tes machins, tes trucs, mais tu as eu un enfant, ça devient ta priorité et tu vas construire autour de ça. Il ne faut pas s'oublier, mais ce n'est quand même pas la même vie.
Est-ce qu'il y a un endroit kid-friendly que tu aimes bien ?
À Paris ? J'ai fait beaucoup le parc d'acclimatation.
Ouais.
Je le connais dans tous les sens. Voilà, si tu me parles d'enfants, mais c'est ça, c'est le jardin d'acclimatation. Je l'ai fait en long, en large, des pique-niques, le dragon, les manèges, enfin tout. J'ai tout fait. Donc, moi, tu me parles de sortie des enfants, le jardin d'acclimatation.
Et quels sont tes projets, rien que pour toi, et des projets prévus en famille ?
J'espère l'année prochaine pouvoir nous retrouver, nous tous, les quatre enfants, les petits-enfants, peut-être autour de mes 60 ans. Je me dis que ça nous laisse le temps que ce petit virus nous foute un peu la paix, qu'on puisse voyager un peu plus tranquillement et organiser ça, ce qu'on n'a pas fait depuis très, 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 très longtemps. J'aimerais réunir ma famille. C'est vraiment, j'espère que ça va se faire. C'est mon plus gros souhait familial, c'est celui-là.
Oui. Et un projet rien que pour toi ?
Ben oui, rien que pour moi. J'ai rarement des choses, rien que pour moi, ça entraîne forcément quelque chose ou quelqu'un. Rien que pour moi, non. J'ai mon projet à moi, c'est juste d'être en bonne santé pour aller le plus loin possible. Voilà, la santé est quelque chose de très important. Pour tout le monde, je sais, mais pour certaines personnes en particulier, quand elle a été fragile.
Merci beaucoup, Sonia.
Avec plaisir. Voilà, plein de bonnes choses à tout le monde. Que du bonheur.
Merci.
Un grand merci à tous d'avoir écouté Le Tourbillon. Et pour soutenir le podcast, il suffit de laisser 5 étoiles et un avis sur votre application podcast ou sur iTunes. Et rien de mieux que le bouche à oreille, alors parlez-en aussi autour de vous. Pour échanger sur le sujet abordé avec Sonia, retrouvez-nous sur le compte Instagram Le Tourbillon Podcast. Et moi, je vous donne rendez-vous mardi prochain pour parler de la maternité, la vraie.